Proust, son œuvre s'accumulait à sa gauche, sur la table de nuit, sous forme d'une pile de cahiers d'écoliers. Parmi les fioles, ces cahiers d'écoliers, illisibles, il y déchiffrait si mal lui-même sa propre écriture que quand il lisait, cela le jetait dans des fous rires, il se tordait de rire. Je n'oublierai jamais ses lectures la nuit, coupées, hachées par ce rire dont il se barbouillait la figure avec sa main.
Ce soir, du côté de chez Marcel, numéro 3, suite de notre série consacrée à la recherche du temps perdu, intitulée « Du côté de chez Marcel ». Vous connaissez le principe, vous avez peut-être écouté les deux épisodes précédents. Lou Doyon lit des extraits de « Du côté de chez Swann » en première partie et en seconde partie, des spécialistes, des amoureux de Marcel, et ils sont très nombreux, tentent de s'approcher de cette œuvre gigantesque et qui voyage à travers les différents pays. Ce soir, en seconde partie, vous pourrez entendre le polonais metteur en scène Christophe Warlikowski, qui a monté Marcel Proust, et le brésilien Ruben Gallo, qui a publié un livre Proust Latino, qui nous parleront de leur amour de Marcel. Mais comme chaque soir, nous allons commencer en musique, et c'est avec Jacques Brel, Les Bourgeois.
Le cœur bien au chaud, les yeux dans la bière, chez la grosse Adrienne de mon talent. Avec l'ami Jojo et avec l'ami Pierre, on allait boire nos 20 ans. Jojo se prenait pour Voltaire et Pierre pour Casanova. Et moi, moi qui étais le plus fier, moi je me prenais pour moi. Et quand vers minuit passaient les notaires qui sortaient de l'hôtel des Trois Faisans, on leur montrait notre cul et nos bonnes manières en leur chantant. Les bourgeois, c'est comme les cochons, plus ça devient vieux, plus ça devient bête. Les bourgeois, c'est comme les cochons, plus ça devient vieux, plus ça devient... Le cœur bien au chaud, les yeux dans la bière, chez la grosse Adrienne de mon talent. Avec l'ami Jojo et avec l'ami Pierre, on allait brûler nos 20 ans. Voltaire dansait comme un vicaire et Casanova n'osait pas. Et moi, moi qui restais le plus fier, moi, j'étais presque aussi sous que moi. Et quand vers minuit passaient les notaires qui sortaient de l'hôtel des Trois Faisans, on leur montrait notre cul et nos bonnes manières en leur chantant. Les bourgeois, c'est comme les cochons, plus ça devient vieux, plus ça devient bête. Les bourgeois, c'est comme les cochons, plus ça devient vieux, plus ça devient... Le cœur au repos, les yeux bien sur terre, au bar de l'hôtel des Trois Faisans, avec maître Jojo et avec maître Pierre, entre notaires, on passe le temps. Jojo parle de Voltaire et Pierre de Casanova. Et moi, moi, moi qui suis resté le plus fier, moi, moi je parle encore de moi. Et c'est en sortant vers minuit, monsieur le commissaire, que tous les soirs, de chez la Montalent, de jeunes peignes-culs nous montrent leur derrière en nous chantant. Les bourgeois, c'est comme les cochons, plus ça devient vieux et plus ça devient bête, disent-ils, monsieur le commissaire. Les bourgeois, plus ça devient vieux et plus ça devient...
Un amour de Swann, épisode 3. Mais Swann se disait que s'il montrait à Odette, en consentant seulement à la retrouver après dîner, qu'il y avait des plaisirs qu'il préférait à celui d'être avec elle, le goût qu'elle ressentait pour lui ne connaîtrait pas longtemps la satiété. Et, d'autre part, préférant infiniment à celle d'Odette la beauté d'une petite ouvrière fraîche et bouffie comme une rose dont il était épris, il aimait mieux passer le commencement de la soirée avec elle, étant sûr de voir Odette ensuite. C'est pour les mêmes raisons qu'il n'acceptait jamais qu'Odette vînt le chercher pour aller chez les Verdurin. La petite ouvrière l'attendait près de chez lui, à un coin de rue que son cocher Rémi connaissait. Elle montait à côté de Swann et restait dans ses bras jusqu'au moment où la voiture l'arrêtait devant chez les Verdurin. À son entrée, tandis que Madame Verdurin, montrant des roses qu'il avait envoyées le matin, lui disait « Je vous gronde » et lui indiquait une place à côté d'Odette, le pianiste jouait, pour eux deux, la petite phrase de Vinteuil qui était comme l'air national de leur amour. Il commençait par la tenue des trémolos de violon que, pendant quelques mesures, on entend seul, occupant tout le premier plan. Puis tout d'un coup, il semblait s'écarter et, comme dans ces tableaux de Peter de Hoche, qu'approfondit le cadre étroit d'une porte entrouverte tout au loin d'une couleur autre dans le velouté d'une lumière interposée, la petite phrase apparaissait, dansante, pastorale, intercalée, épisodique, appartenant à un autre monde. Elle passait à plis simples et immortels, distribuant, çà et là, les dons de sa grâce avec le même ineffable sourire. Mais Swann y croyait distinguer maintenant du désenchantement. Elle semblait connaître la vanité de ce bonheur dont elle montrait la voie. Dans sa grâce légère, elle avait quelque chose d'accompli, comme le détachement qui succède au regret. Mais peu lui importait. Il la considérait moins en elle-même, en ce qu'elle pouvait exprimer pour un musicien qui ignorait l'existence et de lui et d'Odette quand il l'avait composée, et pour tous ceux qui l'entendraient dans des siècles, que comme un gage, un souvenir de son amour qui, même pour les Verdurin, pour le petit pianiste, faisait penser à Odette en même temps qu'à lui, les unissait. C'était au point que, comme Odette, par caprice, l'en avait prié, il avait renoncé à son projet de se faire jouer par un artiste la sonate entière, dont il continua à ne connaître que ce passage. « Qu'avez-vous besoin du reste ?» lui avait-elle dit. « C'est ça, notre morceau. » Et même, souffrant de songer, au moment où elle passait si proche et pourtant à l'infini, que tandis qu'elle s'adressait à eux, elle ne les connaissait pas. Il regrettait presque qu'elle eût une signification, une beauté intrinsèque et fixe, étrangère à eux, comme en des bijoux donnés ou même en des lettres écrites par une femme aimée. Nous en voulons à l'eau de la gemme et aux mots du langage de ne pas être fait uniquement de l'essence d'une liaison passagère et d'un être particulier. Souvent, il se trouvait qu'il s'était tant attardé avec la jeune ouvrière avant d'aller chez les Verdurin qu'une fois la petite phrase jouée par le pianiste, Swann s'apercevait qu'il était bientôt l'heure qu'Odette rentra. Il la reconduisait jusqu'à la porte de son petit hôtel, rue La Pérouse, derrière l'Arc de Triomphe. Et c'était peut-être à cause de cela, pour ne pas lui demander toutes les faveurs, qu'il sacrifiait le plaisir moins nécessaire pour lui de la voir plus tôt, d'arriver chez les Verdurin avec elle, à l'exercice de ce droit qu'elle lui reconnaissait de partir ensemble, et auquel il attachait plus de prix parce que, grâce à cela, il avait l'impression que personne ne la voyait, ne se mettait entre eux, ne l'empêchait d'être encore avec lui après qu'il l'avait quittée. Ainsi revenait-elle dans la voiture de Swann, un soir, comme elle venait d'en descendre et qu'il lui disait « à demain », elle cueillit précipitamment dans le petit jardin qui précédait la maison un dernier chrysanthème et le lui donna avant qu'il fût reparti. Il le tint serré contre sa bouche pendant le retour et quand au bout de quelques jours la fleur fut fanée, il l'enferma précieusement dans son secrétaire. Mais il n'entrait jamais chez elle. Deux fois seulement dans l'après-midi, il était allé participer à cette opération capitale pour elle, prendre le thé. L'isolement et le vide de ces courtes rues, faites presque toutes de petits hôtels contigus, dont tout à coup venaient rompre la monotonie quelques sinistres échoppes, témoignages historiques et restes sordides du temps où ces quartiers étaient encore mal famés, la neige qui était restée dans le jardin et aux arbres, le négligé de la saison, le voisinage de la nature, donnaient quelque chose de plus mystérieux à la chaleur, aux fleurs qu'il avait trouvées en entrant. Laissant à gauche, au rez-de-chaussée surélevé, la chambre à coucher d'Odette qui donnait derrière une petite rue parallèle, un escalier droit entre des murs peints de couleurs sombres et d'où tombaient des étoffes orientales, des fils de chapelet turc et une grande lanterne japonaise suspendue à une cordelette de soie, mais qui, pour ne pas priver les visiteurs des derniers conforts de la civilisation occidentale, s'éclairait au gaz, montaient au salon et au petit salon. Ils étaient précédés d'un étroit vestibule dont le mur, quadrillé d'un treillage de jardin mais doré, était bordé dans toute sa longueur d'une caisse rectangulaire où fleurissait, comme dans une serre, une rangée de ces gros chrysanthèmes, encore rares à cette époque, mais bien éloignés cependant de ce que les horticulteurs réussirent plus tard à obtenir. Swann était agacé par la mode qui, depuis l'année dernière, se portait sur eux. Mais il avait eu plaisir, cette fois, à voir la pénombre de la pièce zébrée de rose, d'oranger et de blanc par les rayons odorants de ces astres éphémères qui s'allument dans les jours gris. Odette l'avait reçue, en robe de chambre de soie rose, le cou et les bras nus. Elle l'avait fait asseoir près d'elle dans un des nombreux retraits mystérieux qui étaient ménagés dans les enfoncements du salon, protégés par d'immenses palmiers contenus dans des cache-pots de chine ou par des paravents auxquels étaient fixées des photographies, des nœuds de rubans et des éventails. Elle lui avait dit « Vous n'êtes pas confortable comme cela. Attendez, moi je vais bien vous arranger. » Et avec le petit rire vaniteux qu'elle aurait eu pour quelque invention particulière à elle, avait installé derrière la tête de Swann, sous ses pieds, des coussins de soie japonaise qu'elle pétrissait comme si elle avait été prodigue de ses richesses et insoucieuse de leur valeur. Mais quand le valet de chambre était venu apporter successivement les nombreuses lampes qui, presque toutes enfermées dans des potiches chinoises, brûlaient isolées ou par couple, toutes sur des meubles différents comme sur des autels et qui, dans le crépuscule déjà presque nocturne de cette fin d'après-midi d'hiver, avaient fait reparaître un coucher de soleil plus durable, plus rose et plus humain, faisant peut-être rêver dans la rue quelque amoureux arrêté devant le mystère de la présence que décéleraient et cacheraient à la fois les vitres rallumées, elle avait surveillé sévèrement du coin de l'œil le domestique pour voir s'il les posait bien à leur place consacrée. Elle pensait qu'en en mettant une seule là où il ne fallait pas, l'effet d'ensemble de son salon eût été détruit, et son portrait, placé sur un chevalet oblique drapé de peluche, mal éclairé. Aussi suivait-elle avec fièvre les mouvements de cet homme grossier et le réprimanda-t-elle vivement parce qu'il avait passé trop près de deux jardinières qu'elle se réservait de nettoyer elle-même dans sa peur qu'on ne les abîmât et qu'elle alla regarder de près pour voir s'il ne les avait pas écornées. Elle trouvait à tous ces bibelots chinois des formes amusantes, et aussi aux orchidées, aux cattleyas surtout, qui étaient, avec les chrysanthèmes, ses fleurs préférées, parce qu'ils avaient le grand mérite de ne pas ressembler à des fleurs, mais d'être en soie, en satin. « Celle-là a l'air d'être découpée dans la doublure de mon manteau », dit-elle à Swann, en lui montrant une orchidée, avec une nuance d'estime pour cette fleur si chic, pour cette sœur élégante et imprévue que la nature lui donnait, si loin d'elle dans l'échelle des êtres et pourtant raffinée, plus digne que bien des femmes qu'elle lui fit une place dans son salon. En lui montrant tour à tour des chimères à langue de feu décorant une potiche ou brodées sur un écran, les corolles d'un bouquet d'orchidées, un dromadaire d'argent niellé aux yeux incrustés de rubis qui voisinait sur la cheminée avec un crapaud de jade, elle affectait tour à tour d'avoir peur de la méchanceté ou de rire de la cocasserie des monstres, de rougir de l'indécence des fleurs et d'éprouver un irrésistible désir d'aller embrasser le dromadaire et le crapaud qu'elle appelait « chéri ». Et ces affectations contrastaient avec la sincérité de certaines de ses dévotions, notamment à Notre-Dame de la Gaie, qui l'avait jadis, quand elle habitait Nice, guérie d'une maladie mortelle, et dont elle portait toujours sur elle une médaille d'or à laquelle elle attribuait un pouvoir sans limite. Odette fit à Swann son thé, lui demanda « citron ou crème ?» et comme il répondit « crème », lui dit en riant « un nuage ». Et comme il le trouvait bon, « vous voyez que je sais ce que vous aimez ?» Ce thé, en effet, avait paru à Swann quelque chose de précieux, comme à elle-même. Et l'amour a tellement besoin de se trouver une justification, une garantie de durée, dans des plaisirs qui, au contraire, sans lui, n'en seraient pas, et finissent avec lui, que quand il l'avait quitté à 7 heures pour rentrer chez lui s'habiller, pendant tout le trajet qu'il fit dans son coupé, ne pouvant contenir la joie que cet après-midi lui avait causée, il se répétait « Ce serait bien agréable d'avoir ainsi une petite personne chez qui on pourrait trouver cette chose si rare, du bon thé. » Une heure après, il reçut un mot d'Odette et reconnut tout de suite cette grande écriture dans laquelle une affectation de raideur britannique imposait une apparence de discipline à des caractères informes qui eussent signifié, peut-être pour des yeux moins prévenus, le désordre de la pensée, l'insuffisance de l'éducation, le manque de franchise et de volonté. Swann avait oublié son étui à cigarette chez Odette. Que n'y aviez-vous oublié aussi votre cœur, je ne vous aurais pas laissé le reprendre. Une seconde visite qu'il lui fit eut plus d'importance peut-être. En se rendant chez elle ce jour-là, comme chaque fois qu'il devait la voir d'avance, il se la représentait. Et la nécessité où il était, pour trouver jolie sa figure, de limiter aux seules pommettes roses et fraîches les joues qu'elle avait si souvent jaunes, languissantes, parfois piquées de petits points rouges, l'affligeait comme une preuve que l'idéal est inaccessible et le bonheur médiocre. Il lui apportait une gravure qu'elle désirait voir. Elle était un peu souffrante. Elle le reçut en peignoir de crêpe de Chine mauve, ramenant sur sa poitrine, comme un manteau, une étoffe richement brodée. Debout, à côté de lui, laissant couler le long de ses joues ses cheveux qu'elle avait dénoués, fléchissant une jambe dans une attitude légèrement dansante pour pouvoir se pencher sans fatigue vers la gravure qu'elle regardait, en inclinant la tête de ses grands yeux, si fatigués et maussades quand elle ne s'animait pas, elle frappa Swann par sa ressemblance avec cette figure de Zéphora, la fille de Jéthro, qu'on voit dans une fresque de la chapelle Sixtine. Swann avait toujours eu ce goût particulier d'aimer à retrouver dans la peinture des maîtres, non pas seulement les caractères généraux de la réalité qui nous entoure, mais ce qui semble au contraire le moins susceptible de généralité, les traits individuels des visages que nous connaissons. Ainsi, dans la matière d'un buste du doge Loredan par Antoine Rizzo, la saillie des pommettes, l'obliquité des sourcils, enfin la ressemblance criante de son cocher Rémy, sous les couleurs d'un guirlande d'arreaux, le nez de Monsieur de Palancy. Dans un portrait de Tintoret, l'envahissement du gras de la joue par l'implantation des premiers poils des favoris, la cassure du nez, la pénétration du regard, la congestion des paupières du docteur du Boulbon. Peut-être, ayant toujours gardé un remords d'avoir borné sa vie aux relations mondaines, à la conversation, croyait-il trouver une sorte d'indulgent pardon à lui accorder par les grands artistes, dans ce fait qu'ils avaient eux aussi considéré avec plaisir, fait entrer dans leurs œuvres, de tels visages qui donnent à celles-ci un singulier certificat de réalité et de vie, une saveur moderne, peut-être aussi s'était-il tellement laissé gagner par la frivolité des gens du monde, qu'il éprouvait le besoin de trouver dans une œuvre ancienne ces allusions anticipées et rajeunissantes à des noms propres d'aujourd'hui. Peut-être, au contraire, avait-il gardé suffisamment une nature d'artiste pour que ses caractéristiques individuelles lui causassent du plaisir en prenant une signification plus générale. Dès qu'il les apercevait déracinés, délivrés dans la ressemblance d'un portrait plus ancien avec un original qu'il ne représentait pas. Quoi qu'il en soit, et peut-être parce que la plénitude d'impression qu'il avait depuis quelque temps, et bien qu'elle lui fût venue plus tôt avec l'amour de la musique, avait enrichi même son goût pour la peinture, le plaisir fut plus profond et devait exercer sur Swann une influence durable qu'il trouva à ce moment-là dans la ressemblance d'Odette avec la Zéphora de ce Sandro di Mariano, auquel on donne plus volontiers son surnom populaire de Botticelli depuis que celui-ci évoque au lieu de l'œuvre véritable du peintre l'idée banale et fausse qu'il s'en est vulgarisée. Il n'estima plus le visage d'Odette selon la plus ou moins bonne qualité de ses joues et d'après la douceur purement carnée qu'il supposait devoir leur trouver en les touchant avec ses lèvres, si jamais il osait l'embrasser, mais comme un écheveau de lignes subtiles et belles que ses regards dévidèrent, poursuivant la courbe de leur enroulement, rejoignant la cadence de la nuque à l'effusion des cheveux et à la flexion des paupières, comme en un portrait d'elle en lequel son type devenait intelligible et clair. Il la regardait. Un fragment de la fresque apparaissait dans son visage et dans son corps, que dès lors il chercha toujours à y retrouver, soit qu'il fût auprès d'Odette, soit qu'il pensât seulement à elle, et bien qu'il ne tînt sans doute au chef-d'œuvre florentin que parce qu'il le retrouvait en elle, pourtant cette ressemblance lui conférait à elle aussi une beauté, la rendait plus précieuse. Swann se reprocha d'avoir méconnu le prix d'un être qui eût paru adorable au grand Sandro. Et il se félicita que le plaisir qu'il avait à voir Odette trouvât une justification dans sa propre culture esthétique. Il se dit qu'en associant la pensée d'Odette à ses rêves de bonheur, il ne s'était pas résigné à un pis-aller aussi imparfait qu'il l'avait cru jusqu'ici, puisqu'elle contenait en lui ses goûts d'art les plus raffinés. Il oubliait qu'Odette n'était pas plus pour cela une femme selon son désir, puisque précisément son désir avait toujours été orienté dans un sens opposé à ses goûts esthétiques. Le mot « d'œuvre florentine » rendit un grand service à Swann. Il lui permit, comme un titre, de faire pénétrer l'image d'Odette dans un monde de rêves, où elle n'avait pas eu accès jusqu'ici et où elle s'imprégna de noblesse. Et tandis que la vue purement charnelle qu'il avait eue de cette femme, en renouvelant perpétuellement ses doutes sur la qualité de son visage, de son corps, de toute sa beauté, affaiblissait son amour, ses doutes furent détruits, cet amour assuré, quand il eut à la place pour base les données d'une esthétique certaine. Sans compter que le baiser et la possession qui semblaient naturels et médiocres s'il lui était accordé par une chair abîmée, venait couronner l'adoration d'une pièce de musée, lui parurent devoir être surnaturel et délicieux. Et quand il était tenté de regretter que depuis des mois il ne fit plus que voir Odette, il se disait qu'il était raisonnable de donner beaucoup de son temps à un chef-d'œuvre inestimable, coulé pour une fois dans une matière différente et particulièrement savoureuse, en un exemple rarissime qu'il contemplait tantôt avec l'humilité, la spiritualité et le désintéressement d'un artiste, tantôt avec l'orgueil, l'égoïsme et la sensualité d'un collectionneur.
Alors Marcel, ça a commencé comment la folie Marcel, Christophe Warlikowski ?
Tu veux dire Proust ?
Oui. Il n'y en a qu'un de Marcel.
Marcel, ça a commencé à l'âge de 17 ans. Tu vois, quand j'étais à la montagne, je faisais du ski. Non, excuse-moi, c'était ma première année d'études à Cracovie. Il y avait la grève, donc je suis allé à la montagne. Donc la fameuse grève de 81. Donc moi je sortais de mon dormitoire, tu vois, il y avait à peu près une vingtaine de garçons qui faisaient du ski et moi je lisais le Marcel dans le couloir.
En version française ou en version polonaise?
Non, non, non. La version française est venue plus tard.
Et vous vous souvenez des sensations qui vous ont envahi? Qu'est-ce qui s'est passé au moment de cette première lecture?
Un voyage, puisque j'étais à la montagne, parce que je faisais du ski, et dans l'après-midi, pour me séparer des autres bavards et tout ça, je m'enfermais avec la lecture de Marcel.
En commençant par le début?
Oui.
Et en allant jusqu'à la fin?
En allant jusqu'à la fin. Surtout qu'en version polonaise, tu vois, il y a un traducteur et puis il y a un autre. La version polonaise, donc la traduction polonaise, il y a que le temps retrouvé qui a été traduit plus tard par quelqu'un d'autre. Donc, tu vois, la chute avec le dernier volume était beaucoup plus drastique parce que c'est un autre langage. C'était le langage du début du siècle, disons, mais très savoureux.
Alors, qui est Marcel Proust pour vous, Christophe, et qui est Marcel Proust en Pologne aujourd'hui?
Tu sais ce qu'on dit, que la frontière de l'Est et l'Ouest finit avec la Vistule, parce que jusqu'à la Vistule, on lit Marcel, justement, et après on l'oublie. Après, Marcel, c'est ce qu'il y a de mieux, ce qu'on a écrit, qu'un humain a pu concevoir sur le passage court de la vie, la mort, la vieillesse, le fait de s'en aller petit à petit.
Une fois la lecture, pour la première fois, intégrale de la recherche faite, avez-vous l'idée ou le désir de recommencer à lire?
Oui. Ben, c'est-à-dire aussi, j'ai une période où je reviens beaucoup à mes lectures. Quand j'avais 20 ans, j'ai passé par les auteurs classiques. Et après, il y a plusieurs dates où je reviens au même. Donc avec Marcel, ça s'est fait peut-être trois fois.
Trois fois.
Déjà, il y a Mann, il y a mon favori, Monte Cristo, tu vois, tout ça.
Alors, qu'apporte la relecture de Marcel Proust? Est-ce que vous avez eu l'impression, à relire à plusieurs reprises la recherche, ce qui est une entreprise temporelle quand même assez importante, il faut le décider dans son existence, est-ce que vous avez eu l'impression de découvrir des nouvelles choses à chaque relecture?
Oui, il y a d'autres choses qui attirent l'attention. Par exemple, toute l'affaire Dreyfus... quand on lit pour la première fois, quand on est jeune, ça nous dérange plutôt. Ça élargit l'œuvre, ça mène vers quelque chose qu'on comprend pas tout à fait, puisque Dreyfus, ça vient plus tard dans l'éducation. Dans ma lecture d'il y a quelques années des Français, c'est-à-dire dans le spectacle que j'ai appelé Les Français, c'était Dreyfus qui est sorti au premier plan et c'était tout ce côté Swann, donc tout ce qui était juif et qui menait à Marcel lui-même.
Comment s'est opéré en vous, Christophe Warlikowski, l'idée des décennies après la première lecture de la recherche de faire un spectacle théâtral à partir de votre propre lecture et pas du tout une adaptation de la recherche?
Non, on peut pas prétendre, on peut pas être aussi arrogant de dire qu'on puisse adapter. Mais ça m'a jamais quitté en fait, parce que déjà à l'école, je faisais des scènes de Proust. Il y avait la Guermantes, il y avait les concerts. C'est revenu après à Milan, quand je travaillais avec Streller. Il y avait d'autres scènes de Marcel Proust. Après, dans le cadre de Festwochen en Allemagne, à Bonn, j'ai créé la première version. C'était avec l'ensemble du théâtre de Bonn. Donc, en langue allemande. Là, j'ai quand même beaucoup souffert puisque c'est encore un autre monde, puisque c'est une traduction allemande et la langue n'était pas du tout de la même manière flexible, de la même manière drôle, vieillotte parfois et tout ça. Et après est venu ce moment, donc il y a 3 ans, où j'ai vraiment... je me sentais peut-être prêt à parler des choses fortes, vraiment, de Marcel Proust. C'est-à-dire, il fallait ce cadre juif, quand même, pour appesantir.
Alors, ce spectacle que vous avez intitulé « Les Français » se déroulait effectivement sur une seule temporalité. Tout était mélangé, alors que dans la recherche, il y a évidemment le cycle du temps. Qui fait c'est-à-dire mouvoir l'ensemble des personnages, parce que c'est les thèmes qui vous ont intéressé. Des thèmes que vous avez prélevés exactement comme un savant de laboratoire peut aller faire des échantillons de la langue de Proust. Comment vous avez travaillé, Christophe Berlikowski?
Nous, on est rentré avec Dreyfus d'abord. Donc c'était une séance... du spiritisme où on appelait un fantôme donc là tout le groupe Guermantes en s'amusant appelle Dreyfus. C'est pas vrai dans l'histoire vraiment, mais de toute façon donc on a évoqué ce fantôme qui est revenu de Dreyfus. Et après, on est rentré dans Proust lui-même avec cette fameux monologue de Sodome et Gomorre. Et après, il y a le langage de Guermantes, il y a le langage des Verdurin, il y a les artistes, après il y a des langages visuels.
Alors, langage visuel, parlons-en, Christophe Berlikowski. Dans votre adaptation de La Recherche, il y avait, comme souvent dans vos spectacles, des vidéos. Mais les vidéos étaient particulièrement omniprésentes, et notamment des vidéos de végétales, de fleurs, de plantes, de sève. Mais il y avait aussi cette espèce de biologie cellulaire des plantes qui peut faire penser au sang qui circule dans notre organisme, nous, humains. Il y avait comme une sorte de transmutation végétale sur le plateau du théâtre, de votre vision de Marcel Proust. Pourquoi et comment?
À cause de cette difficulté que Proust lui-même rencontrait avec le langage qui n'avait pas encore l'habitude d'appeler certaines choses par leur nom, et aussi le langage par rapport à l'homosexualité. Mais après, c'était aussi de replacer le phénomène d'homosexualité dans la nature, puisque la nature est aussi homosexuelle. Du coup, on pouvait comprendre avec cette vie végétale, avec l'organisme, que ça fait naturellement partie de l'univers.
Il y avait des cages aussi dans votre adaptation de La Recherche, Christophe, des cages de verre, par définition transparente, où se passaient des jeux amoureux et des jeux pervers. Comment vous définiriez les multiples formes d'amour dans La Recherche? Et la vision que vous en avez, vous?
Écoutez, cet amour est malade de jalousie. Déjà, Swann, cette jalousie le rend malade. Après, Marcel, ou le narrateur, c'est la même chose. L'amour homosexuel des femmes, l'amour homosexuel, tout ce qui est marge plutôt, pas réussi dans l'amour, hein, c'est ça la préoccupation de Proust, la difficulté, l'échec de l'humanité. Les cages, c'était aussi les cages qui nous séparaient du monde des Guermantes. Les Guermantes, ils étaient dans les cages, et par exemple le narrateur, il était en dehors du cage. Donc il n'avait pas d'accès. Donc tout ce qui était à côté, tout ce qui était trop exclusif ou trop sombre ou trop dark, hein, pour montrer directement.
Votre spectacle, qui restait en LED de feu pour celles et ceux qui ont eu la chance de le voir, donnait l'idée que la recherche du temps perdu était une sorte de train qui filait dans la nuit et que tout concourait vers le dernier tome, le temps retrouvé. Et vous y accordez une importance particulière, comme si ce n'était pas seulement le monde que décrivait Marcel Proust, qu'il décrivait dans la recherche, c'est pas son monde à lui uniquement. Il décrit le monde qu'il connaît, évidemment.
Oui.
Mais c'est le monde en général.
En fait, c'est un voyage aussi inattendu, parce qu'à un certain moment, il y a le livre « La mémoire retrouvée » de Edmond Duval. C'est-à-dire, il y avait tout d'un coup, il y avait l'autre côté de l'histoire, c'est-à-dire personne presque sait ce qui se passe avec Dreyfus après l'affaire de Dreyfus. Maintenant, on a le film qui va sortir, que dans les années 30, il y a les Allemands...
Et d'ailleurs, il y a des nouveaux documents sur l'affaire Dreyfus qui sortent seulement aujourd'hui. Hein,
voilà.
Comme la lettre de Zola à la femme de Dreyfus.
Il y avait sa tante qui était morte à Auschwitz. Il y avait aussi donc... il y avait les Juifs allemands qui venaient en France et qu'à un certain moment, il y avait une pièce de théâtre qui était appelée Dreyfus dans les années 30, mais la première n'a pas eu lieu parce que le théâtre était envahi par les démonstrations. Je crois que le tribunal militaire l'a innocenté seulement dans les années 80 ou 90. Donc on découvre que cette histoire qui a commencé à la fin du 19e finit quelque part dans les camps de mort en Pologne.
Est-ce que vous pensez que finalement Marcel Proust s'est autorisé à mourir quelques jours après avoir terminé la recherche du temps perdu? On le sait maintenant.
Oui.
Même s'il n'a pas écrit la recherche du temps perdu dans l'ordre que nous connaissons et qu'il a souhaité établir. Est-ce que vous pensez qu'il ne pouvait mourir qu'après avoir terminé?
C'était pas seulement parce qu'avant il y avait la mort sociale, hein, puisque la maladie l'a enfermé. Et je crois que s'il n'y avait pas cette maladie, s'il n'y avait pas cette exclusion, si c'était pas un juif, donc tout ce qui monte en souffrance le sépare du monde. Du coup, ça lui donne le temps de rentrer dans un trip que personne d'autre ne serait capable de faire. Bien sûr, il y a quelque chose comme le devoir qu'il s'impose et qui, une fois à peu près accompli, puisque ça n'a pas été complètement inachevé, mais on pouvait le comprendre déjà, qu'il pouvait s'en aller.
Est-ce que vous pensez qu'il faut être très cultivé ou pas du tout cultivé pour pouvoir commencer pour la première fois à lire la recherche? Est-ce qu'il faut une certaine innocence pour lire la recherche?
Je crois qu'on voit des choses différentes. Comme je dis, quelqu'un de 18 ans voit autre chose que quelqu'un de 30. Et quand on a 60, c'est encore autre chose.
La première leçon de Proust, c'est pour les écrivains de poser une sorte d'alternative radicale et je dirais presque chirurgical entre écrire d'une part et tout le reste d'autre part. La seconde leçon, si vous voulez, à mon sens, c'est que pour Proust, la seule raison d'écrire, c'est le bonheur. La décision d'écrire de Proust, c'est une décision qui correspond exactement avec la métamorphose d'une vie somme toute malheureuse et inutile dans une vie heureuse. Écrire, c'est être heureux pour Proust. Et ça, je crois que c'est très important et je dirais presque que c'est extrêmement moderne. C'est peut-être même d'avant-garde en un sens parce que depuis 20 ans, nous avons été habitués à une sorte de sentiment un peu dolosif, un peu malheureux, un peu tourmenté par un excès de responsabilité de l'écriture. Alors que pour Proust, écrire, c'est essentiellement être heureux, et c'est vouloir être heureux. Et alors la troisième leçon, c'est que cette écriture, toute écriture est une sorte de retour aux profondeurs de l'être, c'est véritablement une anamnèse, comme on dit, et cette anamnèse se fait au fond par comparaison, c'est-à-dire par comparaison d'événements, de caractères, de notations, c'est-à-dire qu'au fond, pour Proust, écrire, c'est essentiellement dégager des essences et se convertir à un essentiel qui ne surgit que par comparaison.
Nous venons d'entendre Roland Barthes qui parlait de la joie qu'il avait de lire et de relire Proust, le bonheur de l'écriture. C'était une archive INA du 1er décembre 1963 et c'était au micro de Robert Valette. Alors avec vous, Ruben Gallo, le plaisir de comprendre Marcel Proust de l'étranger va continuer, car après Christophe Warlikowski, on va pouvoir avoir votre point de vue. Il se trouve que vous venez de publier un livre qui s'intitule « Proust latino », qui est très particulier, qui est très joyeux, lui aussi très jubilatoire, et où, grâce à votre amour de Proust, eh ben, vous nous dévoilez un nouveau Marcel. Comment a commencé votre amour de Marcel ?
Oui, alors ça date, je crois que ça date de mon enfance. J'ai découvert la littérature française au Mexique. Je suis né dans la ville de Guadalajara. Et donc, à partir de l'âge de 11 ans, la littérature française devient une grande passion dans ma vie. Et Guadalajara, c'est une ville bourgeoise qui n'est pas très intéressante. C'est pas Mexico avec toute la culture, le théâtre, la littérature. Et donc, je crois que je m'ennuyais. Et l'Alliance française, c'était un endroit très vivant où l'on pouvait découvrir le cinéma français, la littérature française, la culture française. Et c'est là que je commençais à lire, et d'abord Balzac, Stendhal et un peu Proust. À l'époque, bon, j'étais très jeune, je comprenais pas trop. Mais je sentais qu'il y avait quelque chose de passionnant dans cet écrivain qui s'appelait Marcel Proust. Et c'est devenu une espèce de projet de vie, d'essayer de comprendre qu'est-ce qu'il y a dans la recherche, qu'est-ce qu'il y a dans Proust. Et donc, petit à petit, bon, je continuais à lire. Et quand je commençais mon poste à Princeton comme professeur de littérature, je pensais que c'était une bonne occasion de vraiment faire une plongée dans l'œuvre de Proust pour écrire un livre qui devient, plusieurs années plus tard, ce Proust latino.
Mais alors vous, Ruben, vous vivez Proust, vous vivez comme dans Proust. Et d'ailleurs, la première fois que vous réussissez à avoir un peu d'argent pour venir en Occident et arriver en France, c'est pour aller voir ce que vous a décrit Proust dans La recherche du temps perdu. Donc vous allez essayer de rechercher Albertine, Madame de Guermantes, tous les personnages de la recherche, et puis vous allez vous retrouver non pas dans Marcel Proust, mais au Bois de Boulogne. Vous pouvez raconter ?
Quand j'ai eu 15 ans, je fais mon premier voyage en France. C'était un groupe organisé de l'Alliance française. Et donc, j'avais visité le Louvre, plusieurs musées, le Champs-Élysées. Et le dernier jour, à minuit, j'étais très angoissé parce qu'il me restait encore des choses à voir. Et je dis à mon ami avec lequel je partageais ma chambre d'hôtel, qui était aussi un Mexicain de 15 ans, je dis, on devrait aller voir le Bois de Boulogne. Parce que là, il y a des promenades, il y a des élégantes qui se promènent. Et il a pensé que c'était peut-être un peu tard, c'était après minuit. J'ai dit, mais non, parce qu'il y aura le bal de société qui finit à 7h. Donc, on a pris le métro, on est allé voir. Et hélas, il n'y avait personne. On avait trouvé que des allées pleines de poubelles. Mais on est allé un peu plus loin. Et là, on voit cette figure effrayante. Et on a pensé que c'était une femme dans une robe de Schwerhardt. Mais non, hélas, c'était une figure qui nous a fait très peur. On ne savait pas ce que c'était, mais on a rentré très vite en métro et le lendemain, c'est notre professeur qui nous a expliqué que c'était peut-être une travestie brésilienne.
Alors, Marcel Proust fréquentait beaucoup la communauté latino-américaine de son temps. Vous nous faites des révélations. Moi, personnellement, je ne savais pas qu'un des personnages principaux, Reynaldo Hahn, était latino-américain. Autre révélation que vous nous apportez avec votre regard d'étranger, amoureux de Proust, Ruben, c'est que Marcel Proust était un boursicoteur et qui s'intéressait beaucoup à certaines actions venues d'Amérique latine.
Oui, tout à fait. C'est un des chapitres que pour moi était le plus passionnant à écrire. Proust a très peu voyagé. En fait, il n'a jamais quitté l'Europe. Mais Proust aimait bien voyager dans son imagination. Et donc, une chose qu'il faisait, c'est qu'il achetait de titres des actions, des compagnies très exotiques. Je me souviens, Malacca Robert, de mines d'or en Afrique. Et donc, son banquier lui déconseillait souvent ses placements. Et Proust répondait, j'irai jamais en Afrique, j'irai jamais en Orient, mais si j'achète des titres de ces compagnies, je peux rêver dans mon esprit que j'étais dans ces pays-là. Donc pour lui, c'était une façon de posséder ces endroits exotiques. Et donc il a décidé de placer une somme d'argent considérable dans des actions de tramway de Mexico, qu'il a presque tout perdu parce qu'il a décidé d'acheter ces actions juste avant la révolution mexicaine. Donc, après le premier éclat de la Révolution mexicaine, le prix de ces actions a commencé à chuter d'une façon extraordinaire. Et ce qui est très curieux, c'est que son courtier, c'était un ami d'enfance qui s'appelait Lionel Hauser. Et donc, on sait qu'il a suivi tous les détails de l'évolution de la Révolution mexicaine. Il en écrit à Lionel Hauser, mais à chaque fois, il voulait savoir si l'élection d'un nouveau président, l'assassinat d'un autre homme politique, le rapprochement avec les États-Unis, si tout cela allait avoir des effets positifs sur son portefeuille. C'est une correspondance qui est hilarante, parce qu'on voit à la fois Anne-Marcel Proust, qui a très bien connu l'histoire du Mexique, mieux que personne dans son temps, je pense, mais en même temps, ça ne l'intéressait que par les effets que ça pourrait avoir sur ses actions mexicaines.
Alors vous, Ruben, vous qui êtes amoureux de Marcel Proust, vous qui enseignez Marcel Proust, vous qui nous faites des révélations sur Marcel Proust, est-ce que vous relisez Marcel Proust ?
Oui, tout le temps. Je suis aussi professeur à Princeton et donc régulièrement j'enseigne Proust. Et
dans c'est quelle langue ?
Dans la traduction anglaise, plutôt, oui. Et donc c'est toujours un grand bonheur de relire Proust. Je triche un peu parce que je relis en français et j'enseigne la traduction américaine à mes étudiants. Mais c'est toujours un grand bonheur de découvrir la langue, l'esprit, la méchanceté de Proust. Et surtout cette façon dont il a de jouer et de brouiller le code.
Et ce décalage qu'introduit votre propre nationalité, votre propre regard, votre propre perception du monde, qui n'est pas du tout celle qu'a eue Marcel Proust au moment de l'écriture de la recherche, donne plus de sel et plus, entre guillemets, d'exotisme. Parce que nous, quand on lit Marcel Proust, évidemment, quel que soit notre âge, notre génération, notre milieu social, on arrive à piquer des choses qui appartiennent à notre ADN, entre la Madeleine de Proust, les aubépines, le paysage, les odeurs, les saveurs, les relations sociales. Mais pour vous, vous y puisez aussi un point de vue ethnologique. C'est comme si c'était une réserve d'Indiens, la recherche du temps perdu.
Je trouve qu'il y a des choses qui sont exotiques, bien sûr, mais il y a beaucoup qui est très familier. Et dans l'introduction du livre, je parle un peu, j'ai l'impression que ce monde proustien, avec tous ces codes de politesse qui sont extrêmement pointilleux, des différentes formes d'adresse, par exemple la troisième personne, le vouvoiement, et pour Proust, ça c'était très très important, cette petite différence. Et par exemple, tout ça, c'est en train de disparaître en Europe, où c'est devenu une culture beaucoup très moderne, très familière, très influencé par les États-Unis, on tutoie tout le monde, c'est très décontracté. Tandis que, par exemple, en Amérique latine, il y a tout un monde qui reste, qui est très traditionnel, avec des formes de politesse qui sont très baroques. Et pour moi, c'est un côté proustien. Par exemple, quand Proust décrit la façon dont Françoise parle à la tante Léonie ou au narrateur, j'ai toujours l'impression de revivre des scènes de mon enfance. Et même aujourd'hui, en Amérique latine, on a des moments très proustiens. Je raconte, par exemple, j'ai eu affaire aux héritiers d'un personnage de mon livre qui s'appelle Gabriel de Ituri, qui était l'ami de Robert de Montesquieu, qui est un Argentin qui venait d'une famille très simple, très pauvre d'ailleurs. Il était né près de Tucumán en Argentine, dans un tout petit village, et il est arrivé à Paris. Et une semaine après, il était le compagnon de Robert de Montesquieu. Il a passé le reste de sa vie dans des palais, dans des hôtels particuliers, dans des fêtes romanesques. Et lui, comme il n'a pas laissé des archives, j'ai voulu récupérer sa correspondance et j'ai retrouvé la correspondance dans la famille Ituri à Tucumán. Donc je fais les voyages pour acheter ces lettres pour la bibliothèque de l'Université de Princeton. Et quand j'étais là, à ma grande surprise, ces couples très charmants, qui étaient monsieur et madame Ituri, qui avaient plus de 80 ans, ont commencé à m'adresser à la troisième personne. Donc il disait, si monsieur le professeur vient d'accord, on pourrait amener monsieur le professeur à faire une balade à la maison natale de Gabriel Dituri. Et j'ai pensé, mais c'est le monde de Proust, c'est extraordinaire, dans un tout petit village d'Amérique latine. Et donc j'ai dû faire pareil, et j'ai adressé monsieur et madame Dituri à la troisième personne. Et donc je pensais que ce genre de situation, c'était, ça serait presque impossible de la retrouver dans la France d'aujourd'hui. Tandis qu'en Amérique latine, ça continue à exister. Donc il y a un côté de Proust qui est très vivant et qui parle beaucoup à la réalité latino-américaine.
Et qu'avez-vous de Proust en vous, Ruben Gallo ?
Bon, je n'ai pas sa fortune, malheureusement. J'ai peut-être une passion de voir la vie sociale avec un certain décalage. Parce que je crois que la grande leçon de Proust se dit d'y être et de ne pas y être en même temps. Je crois que ça, c'est une expérience très proustienne.
Nasci menina na cidade grande, a maior da América do Sul. Comi hambúrguer, via filme gringo, falava inglês e ouvia blan. Um belo dia já adolescente, no remelejo conheci forró, e desde então é coração saudade. Foi, 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 foi meu primeiro amor. Foi, 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 e até hoje eu danço esse calor. Foi, 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 foi meu primeiro amor. Até hoje eu danço esse calor.
Nasci menino longe da cidade, no semiárido lá do sertão. Não tinha água, tampouco comida, até que Lula veio e deu a mão. Um belo dia já no remelejo fui fazer forró, e conheci uma galeguinha linda.
Foi, foi, foi,
foi meu primeiro amor.
Foi, foi, foi,
e até hoje eu danço esse calor.
Foi, foi, foi,
foi meu primeiro.
Et c'est avec Lucas Santana que nous allons nous quitter ce soir. Merci à Lou Doyon qui nous accompagne chaque soir avec sa lecture de Marcel. Merci à Ruben Gallo qui publie ces jours-ci un livre tout à fait réjouissant intitulé Proust Latino aux éditions Buchet-Chastel. Merci aux éditions Gallimard. Je rappelle que À la recherche du temps perdu est disponible dans toutes les librairies en collection de poche chez Folio. Merci à Élodie Royer, Sophie Dazard et Louise Douillet, à Jean-Baptiste Audibert et bien sûr à Lilian Allôme qui, comme chaque soir, a réalisé cette émission. Nous espérons vous retrouver demain pour la dernière du côté de chez Marcel. Et après le prochain journal d'information, vous avez rendez-vous comme chaque soir avec l'ami Mishka Assayas pour son Very Good Trip.